commence par le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Est-ce vraiment l'épilogue de la crise politique en Allemagne? Angela Merkel a réussi hier à sauver son gouvernement en acceptant de renoncer à sa politique migratoire généreuse, mais ce répit trouvé avec ses alliés conservateurs de la CSU pourrait n'être que de courte durée. Les sociaux-démocrates ont aussi leur mot à dire.
Un attentat contre des opposants iraniens près de Paris a été déjoué avec l'arrestation à Bruxelles d'un couple en possession d'explosifs. Pour Téhéran, cette histoire n'est qu'un stratagème visant à nuire à la République islamique d'Iran.
Dans ce journal, nous irons au Havre avec les employés de l'hôpital psychiatrique de la ville qui entament aujourd'hui leur 18e jour de grève. Des urgences saturées, des chambres surchargées, des matelas à même le sol. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail.
Dans la première partie de cette tranche, à partir de 7h30, nous retrouverons notre premier invité, l'invité actu des matins. Quelle architecture pour la loi Élan ? C'est le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, Julien de Normandie, qui viendra répondre à nos questions.
63 personnes sont portées disparues après un nouveau naufrage au large des côtes libyennes. Leur canot pneumatique a sombré alors qu'une centaine de migrants se trouvaient à bord, entassés par des passeurs. 41 personnes ont pu être sauvées parce qu'elles portaient des gilets de sauvetage. Mais ce nouveau drame de l'immigration clandestine porte à 1 000 000 le nombre de morts en Méditerranée depuis le début de l'année. Et encore, l'Organisation internationale des migrations précise que ce bilan ne concerne que les hommes, les femmes et les enfants dont on sait par leur corps repêché, par leur proches qu'ils ont tenté de rejoindre l'Europe. La crise migratoire et la crise politique en Allemagne, nous vous en parlions dans ce même journal hier, avec aujourd'hui au moins un répit pour Angela Merkel. La chancelière a réussi hier à sauver son gouvernement en acceptant de renoncer définitivement à sa politique d'accueil mise en place depuis 2015. La CSU, le parti d'Angela Merkel et son allié bavarois, la CSU, sont parvenus donc à un accord hier après 3 semaines de crise et de pression exercée par le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, pour durcir la politique migratoire allemande. Les deux parties ont donc finalement trouvé un terrain d'entente hier. La correspondance à Berlin de David Philippot.
C'est un accord, mais pas un compromis. Angela Merkel n'a pas cédé un pouce de terrain à son ministre de l'Intérieur. Le week-end dernier, Horst Seehofer avait catégoriquement refusé la proposition sur les centres fermés. Hier, il a dû s'incliner pour conserver son poste. Ces camps de transit seront implantés à la frontière entre la Bavière et l'Autriche. Ils ont vocation à accueillir les migrants déjà enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne et qui feront donc l'objet d'une procédure accélérée. Un délai d'une semaine est évoqué, à l'issue duquel les personnes déboutées seront directement reconduites vers un centre de rétention en vue de leur expulsion. La chancelière a évoqué le respect de l'esprit des décisions européennes et son ministre a dû plier. Il n'y aura pas d'expulsion automatique vers des pays tiers sans leur accord. Mais ce texte marque aussi la fin de la politique d'accueil généreuse des migrants en Allemagne, symbolisée par une Angela Merkel affaiblie par cette nouvelle crise politique.
Et le SPD, troisième partenaire de la coalition gouvernementale à Berlin, doit encore avaliser les termes de l'accord conclu cette nuit entre les deux partis conservateurs. Si la présidente des sociaux-démocrates a salué la fin des hostilités entre Angela Merkel et son ministre Horst Seehofer, un spécialiste des questions migratoires du SPD a fustigé des restrictions migratoires qui vont, selon lui, totalement dans le sens de l'extrême droite. Et si le SPD devait rejeter l'accord de cette nuit, tous les efforts d'Angela Merkel pour sauver son gouvernement seraient alors remis en cause. Une réunion au sommet des trois partis de la coalition, CDU, CSU et SPD, est prévue en fin d'après-midi. La question migratoire à présent entre le Mexique et les États-Unis, Andrés Manuel López Obrador, le président mexicain de gauche, élu dimanche, a proposé hier par téléphone à Donald Trump de réduire les migrations et d'améliorer la sécurité dans son pays. Par ailleurs, l'un des conseillers du futur président mexicain espère pouvoir relancer les négociations sur la réforme de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, accord auquel Donald Trump reproche d'avoir nui à l'économie américaine depuis 1994. Elle est accusée aussi par Donald Trump d'être néfaste commercialement pour les États-Unis. L'Union européenne a mis en garde Washington hier contre les conséquences désastreuses d'éventuelles taxes américaines sur les importations de voitures étrangères. Dans une lettre adressée aux autorités américaines, la Commission prévient les États-Unis qu'ils seront les premiers touchés par de nouvelles surtaxes menace également de lourdes représailles.
7h05 sur France Culture, la suite de votre journal. Catherine Dutu, alors que le président iranien Hassan Rouhani est en visite en Europe, en Suisse, puis en Autriche pour parler de l'avenir de l'accord nucléaire dont les États-Unis sont sortis, l'ombre des services secrets iraniens plane sur un attentat déjoué en France le week-end dernier.
Cette attaque visait un rassemblement d'opposants, les Moudjahidines du peuple iranien, à Villepinte, au nord de Paris. 6 personnes ont été arrêtées en Belgique, en France et en Allemagne, Sarah Guibaudot.
Le rassemblement annuel des Moudjahidines du peuple iranien n'attire plus les médias, mais toujours du monde. Ils étaient près de 25 000 samedi à Villepinte. Parmi les invités, Bernard Kouchner ou l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani. Un petit groupe aurait prévu de venir attaquer cette réunion. Un couple d'une trentaine d'années arrêté en Belgique ce même samedi alors qu'il prenait la route pour la France. Dans la voiture, un détonateur caché dans une trousse de toilette et 500 grammes d'explosifs de type TATP. Un autre suspect qui a été interpellé se trouvait déjà à Villepinte. Tous sont belges d'origine iranienne. L'explosif aurait été remis par un diplomate iranien arrêté lui en Allemagne et soupçonné d'appartenir au service secret. En France, la présence depuis près de 30 ans de ces opposants controversés empoisonne toujours les relations avec Téhéran. En 2003, plusieurs dizaines de moudjahidines du peuple avaient été arrêtés dans le cadre d'une enquête antiterroriste. 3 s'étaient immolés par le feu devant les services du renseignement intérieur à Paris. Un fiasco judiciaire qui s'était soldé par un non-lieu.
Les attaques terroristes de ces derniers jours au Mali et au Niger ont été au cœur d'une rencontre hier en Mauritanie entre Emmanuel Macron et les dirigeants de la force conjointe du G5 Sahel, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie. Cette force a été mise sur pied l'an dernier et Emmanuel Macron a tenu à exprimer une fois de plus le soutien de la France à ce projet. Franck Madvon.
Depuis un an maintenant, Emmanuel Macron livre le même message au sujet du G5 Sahel.
Notre souhait est d'éradiquer dans toute la région le terrorisme et donc pour cela de venir en soutien des armées des pays du G5, de les former, de s'assurer d'une coordination efficiente et d'un soutien international.
Le président français voit dans cette force conjointe un moyen pour les Africains d'assurer leur propre sécurité. Hier, il a visité le collège de défense du G5, une école de guerre qui formera les officiers des 5 pays participants. L'objectif, selon son directeur, le général Brahim Wall, est d'améliorer la coopération. Il prend l'exemple des attaques terroristes des derniers jours au Mali.
C'est un ennemi qui cherche tout ce qui est emblématique, tout ce qui peut avoir un impact médiatique. Et il cherche ce genre de symbole. Et c'est l'une des raisons que les pays s'unissent pour faire face ensemble à cet ennemi.
Pour le moment, la force G5 Sahel est encore inefficace. Il manque des financements, admet Emmanuel Macron.
Des premiers résultats concrets sont perceptibles depuis le début du mois de mai. Cela doit se poursuivre. Et j'appelle toutes les parties prenantes et les financeurs autour de la table à accélérer les paiements indispensables.
La force mène actuellement sa 5e opération et n'a encore enregistré aucun succès notable.
Franck Madvon, envoyé spécial de France Culture en Mauritanie. Les employés de l'hôpital psychiatrique Pierre Janet au Havre entament aujourd'hui leur 18e jour de grève. Des urgences saturées, des chambres surchargées, des matelas posés à même le sol. Ils dénoncent des conditions de travail déplorables pour eux et un accueil insuffisant des patients. Ils demandent donc plus de moyens humains et financiers. À l'heure actuelle, le service des urgences accueille chaque jour entre 30 et 35 personnes en plus des capacités normales. Principale revendication des grévistes, créer une unité nouvelle pour soigner dignement les patients. Hier après-midi, des représentants du personnel ont rencontré la direction de l'hôpital et à la sortie de ce rendez-vous, premier constat, la sortie de crise est encore loin, Clotilde Ravel.
Déception et sidération, ce sont les mots des soignants après leur entrevue avec le directeur général hier. Si les grévistes ont obtenu la création de 13 postes pour les remplacements de nuit, la direction a refusé l'ouverture d'une nouvelle unité et la création de 50 postes pour la faire fonctionner. Infirmière aux urgences psychiatriques, Nathalie Sellier dénonce des solutions en décalage avec l'urgence de la situation.
En fait, il nous explique que l'offre crée la demande. Et que donc aujourd'hui, si on ouvre une unité pour accueillir les patients qui sont déjà là, eh bien dans 2 ans, il faudra encore en ouvrir une autre. Pourquoi ne pas les accueillir dignement dès maintenant ?
Depuis presque une semaine, Nathalie Sellier campe avec 7 autres soignants sur le toit de l'hôpital. Les perchés, comme on les appelle, se mobilisent pour dénoncer des conditions d'accueil indignes.
Quand on arrive aux urgences, on attend 8 heures sur une chaise avant de voir un interne. On sait qu'on n'aura pas de chambre. Et peut-être même pas de lit, et peut-être même qu'on dormira sur une banquette ou sur un matelas posé au sol. Et en fait, chaque maillon de la chaîne dysfonctionne. Tellement il y a de patients, tellement on est peu nombreux pour accueillir tous ces patients, et ça rime à rien en fait, on soigne pas les gens là aujourd'hui. on les stocke, on stocke les patients. En fait, c'est horrible à dire, mais on stocke les patients dans les urgences, dans les pavillons, et puis on donne des traitements et des repas, et c'est tout, quoi.
Les grévistes demandent à rencontrer la directrice de l'agence régionale de santé au sein de l'hôpital, l'agence qui, pour l'heure, ne communique pas plus que la direction de l'établissement. À défaut d'un accord, la banderole dans la ville d'Édouard-Philippe, l'hôpital crève aussi, continuera de flotter sur les toits.
Le temps sera encore à l'orage aujourd'hui sur une grande partie du pays, de la Normandie au Grand Est, jusqu'au Massif central et aux Alpes, ainsi que sur les Pyrénées. Un temps plus calmé, ensoleillé près de la Méditerranée, ainsi que dans la basse vallée du Rhône. Les températures sont comprises ce matin entre 15 et 20 degrés, jusqu'à 23 près de la Méditerranée. Cet après-midi, comptez de 20 à 23 près des côtes bretonnes et de la Manche, 24 à 29 dans l'intérieur des terres, jusqu'à 35 au sud. Olivia Gesbert.
Merci Catherine Dutu. Rendez-vous à 7h30 pour un rappel des titres.